Verisure, tellement plus qu'une alarme.
J'attends mes vacances toute l'année. Pas question de les gâcher avec un cambriolage.
L'alarme Verisure détecte les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans votre domicile et les agents préviennent les forces de l'ordre. Rendez-vous sur verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
RMC.
Et la Dream Team DRC. Non, j'ai arraché.
38 par 3, ça doit faire 114.
Non, je calcule vite.
Matière préférée, c'est les maths.
Je suis un matheux.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Tu me prendrais pas pour un père drôle, un peu, non? Hein? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil.
L'afterfoot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h06, Walid Acherchour est là, Florent Gautreau est là, Damien Perkis est là, Johan Crochet également. On va parler de Marseille, de Zerbi, du Mercato avec Florent Germain qui nous rejoint. Florent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Florent.
Alors, reprise. Tu sais que la galinette cendrée, c'était une question que j'avais posée à Deschamps à l'époque.
Ah.
Je me rappelle plus du tout quelle était la question.
Période marseillaise donc.
Mais, non, ouais, exactement. J'avais dû commencer, tu sais, en le flattant un petit peu, et puis après, il sentait venir que ça allait piquer sur la question, et je me souviens exactement de son petit rire et de cette formule, voilà. Donc, je tenais à le dire parce que comme souvent, je l'entends dans les.
Petits et on rappelle, à l'origine, tu as raison.
C'est un sketch des inconnus.
La galinette cendrée.
Oui, aussi.
Ouais. Ouais, c'est ça la référence de la galinette cendrée.
Donc, reprise de l'OM demain. Tests médicaux, tout ça, bon voilà, les trucs habituels. Et donc De Zerbi avec toute son équipe là, rappelons qu'ils sont une équipe de foot à 7.
Ils sont même 8.
Ils sont même 8, voilà, il y a un remplaçant.
Il y a De Zerbi, un staff de 7 personnes, il y a aussi un conseiller spécial de l'entraîneur qui est Giovanni Rossi, l'ancien directeur sportif de Sassuolo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un reset total qui est fait
on voit ça, ouais.
À l'OM. Hein. Donc, ça concerne le coach, ça concerne aussi le staff médical. Il y a quand même 3 kinés et un médecin qui
ça, ça
ont
s'imposer,
un petit, bah écoute, oui, je sais pas en fait.
Honnêtement,
d'accord, mais c'est toujours un peu délicat de penser que c'est forcément dû au staff médical. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse à ça. En tout cas, Pablo Longoria, ça faisait déjà quelques temps qu'il voulait mettre en place une cellule de performance. Elle va s'appeler comme ça. Donc, de nouvelles têtes vont être nommées. Donc vraiment, le reset, il est total et forcément, et c'est ce qui nous intéresse. Ça va concerner surtout l'effectif de l'OM avec beaucoup de mouvements cet été.
Pardon, il y en a un qui connaît bien De Zerbi, c'est Johan Crochet, et il est là avec nous. Donc explique à Florent ce qu'il va avoir à gérer là, et puis tu nous expliquais aussi, je crois que c'était hier ou avant-hier, que c'est pas du tout un hasard si il venait avec autant de monde.
Oui, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas le chercher lui, tu vas pas simplement chercher un entraîneur, tu vas chercher une méthodologie de travail, et donc une méthodologie de travail avec aussi un staff qui connaît cette méthodologie par cœur, qui la répète depuis des années, qui la récite, qui l'enrichit au fur et à mesure aussi, parce que c'est important, c'est des gens qui sont toujours alertes, qui regardent un peu ce qui se passe ailleurs, qui sont toujours en train de rechercher comment améliorer la performance des joueurs, la qualité des entraînements, les discussions, les rapports humains avec les joueurs. Donc quand tu vas chercher Roberto De Zerbi, tu sais à quoi tu t'attends en termes de football déjà, parce que c'est aussi le plus important, la qualité de jeu. On sait que De Zerbi, c'est un ancien numéro 10, et que il l'explique toujours, c'est que lui, il a envie que ses équipes ressemblent aux joueurs qu'il a été, qu'il fut quand il a commencé à l'AC Milan, et ensuite dans des clubs un petit peu moins huppés.
Ouais, quand tu dis ça comme ça, t'as l'impression que le mec, c'était Baggio, c'est pas non plus.
Non, c'est pour ça que je précise, ouais. Qu'il commence à Milan, marqué par Sacchi d'ailleurs, et ensuite il fait des clubs nettement moins huppés en Serie B. Il passe par le Napoli aussi, mais qui n'était pas dans un grand moment de son histoire. Il va en Roumanie. Bref. Il aime avoir le ballon, ça on le connaît maintenant, on a pu le voir. J'ai pas besoin de réexpliquer ce que j'expliquais quand il était au tout début de sa carrière à Sassuolo, et c'est tant mieux, ça veut dire qu'il a progressé et que maintenant on a pu voir aussi comment il appliquait sa méthodo sur le terrain. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment dans le contrôle qu'il veut avoir. Quand tu vas chercher Roberto De Zerbi, tu le nommes pas manager général, mais quelque part, il aime être dans tous les dossiers. Il aime avoir un pouvoir de décision sur tout ce qui se passe et ce qui peut avoir des répercussions sur son métier, sur sa mission de faire performer les joueurs et d'arriver à un résultat aussi à la fin de la saison. Donc c'est pour ça que sur le recrutement, il est impliqué, sur le staff, il est impliqué, sur la personnalité des joueurs qu'il demande, il peut être aussi impliqué. Il y a des joueurs qui peuvent partir non pas pour des questions d'ailleurs footballistiques, mais si il ne voit pas l'étincelle dans les yeux de son interlocuteur, ça peut lui poser problème parce que lui, il explique toujours que ce qu'il cherche dans ses joueurs, c'est cette sorte de flamme, de passion qui va les emmener au quotidien vers un enthousiasme, vers une volonté de travail, vers une ouverture d'esprit, vers beaucoup de choses qui ensuite ont des répercussions sur le jeu. Donc effectivement, Flo, il va normalement, si tout va bien, il va prendre beaucoup de plaisir au stade. Il devra assister à des conférences de presse où on parle beaucoup de football, où il sera très exigeant aussi avec la qualité des questions, parce que il peut te faire comprendre aussi rapidement si ta question elle est pourrie ou pas. C'est quelqu'un qui peut être aussi assez sec. C'est un vrai
caractère. Sur Florent Germain.
Comment?
Même pas peur. Tu sais, on a vécu quand même du André Sampaoli, du Marcelo Bielsa. Il y en avait qui étaient pas tendres. Hein. Mmh. Tudor, c'était parfois très très chaud.
Là, tu sors de Gasset.
Mais après, moi. Du Jean-Louis Gasset. Non, mais je trouve ça passionnant, moi, en plus que dit Johan, à ça. Vous savez que les confs à l'OM sont quand même assez suivis par aussi les supporters marseillais.
Bien sûr.
Et qu'on a presque pas besoin que les entraîneurs nous disent les yeux dans les yeux qu'ils sont pas contents d'une question. En général, il y a la team OM qui nous le fait savoir rapidement et on peut se prendre la marée dans ce club qui est aussi assez particulier. Donc,
je me souviens,
ça va être sympa.
Ah oui, les journalistes, surtout que les intermédiaires entre les supporters et les coachs, hein.
Oui, et le traducteur devrait être très bon parce que je me souviens même d'un match quand il avait joué avec le Shakhtar Monaco en tour préliminaire de Ligue des Champions dans la conf d'après-match. Le traducteur avait mal traduit une expression en ne voulant pas utiliser l'expression vulgaire qu'avait donné De Zerbi. Il l'avait repris de volée en lui disant « c'est pas ce que j'ai dit ». Là aussi, c'est pour montrer l'exigence qu'il a à tous les niveaux, y compris jusque dans bien rapporter les propos qu'il va tenir en conférence de presse.
Il est moyennement exigeant avec son coiffeur, par contre, si je puis me permettre, De Zerbi. Ah. Mais, bon, après, chacun son style. Tiens, Damien, toi qui t'as quand même connu plusieurs coachs, là, quand t'entends ça, là, tu te dis, tiens, je suis curieux de voir ce que ça va donner, ou tu te dis, bon, est-ce que ça peut être adapté à Marseille? Enfin, quel est ton ressenti?
Moi, je suis content qu'ils viennent pas tout seuls déjà, parce que comme on l'a dit, c'est une méthodologie. Je pense que c'est une idée du football qui est la sienne et qui est travaillée, fondée depuis très longtemps et sur laquelle doivent travailler avec lui et à ses côtés des gens qui sont en adhésion déjà avec ces idées-là et surtout avec une connaissance parfaite de cette méthodologie. Bien sûr, ça va faire des malheureux parce que cette méthodologie de travail va forcer des gens à partir. Et après, sur le côté de sa saison et de construire son groupe, moi, je trouve ça bien aussi parce que c'est peut-être aussi une année charnière pour
le grand chamboulement là. On va en parler dans quelques instants. Là, au niveau joueur.
C'est une année charnière par rapport à au fait déjà qu'il n'y ait pas la Ligue des Champions et qu'il est tout à refaire tout simplement. Donc moi je trouve ça bien qu'il vienne avec son staff, avec sa méthode de travail et surtout je pense que dans ce club là il faut que ce soit le coach entre guillemets qui décide ses choix, qui soit pas influencé par le public ou par ce qui se passe ou l'atmosphère qui tourne autour du club. Et je pense que le fait de venir avec ses appuis, c'est une bonne chose.
On critique souvent les clubs qui donnent pas, je dirais pas les pleins pouvoirs, mais en tout cas un staff établi ou fourni. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de débats autour de l'Olympique Lyonnais il y a pas mal d'années sur le fait qu'il fallait garder les mecs dans le staff, les anciens qui étaient souvent les taupes entre guillemets des présidents et qui ne facilitaient pas le travail de certains coachs. Moi je trouve que c'est une très très bonne chose et le fait de faire un reset par rapport à ce qui s'est très mal passé l'année dernière, moi je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et puis Roberto De Zerbi, de toute façon on l'a vu, hein, il a refusé quelques missions parce que il y avait aussi un staff
attention, parce c'est hier ou avant-hier, oui, qu'on en parlait hier. Avec Daniel,
il a
apparemment il a pas dit, il a perdu plus sa compte-offre,
très bien, mais je dis juste que pour Roberto De Zerbi, c'est important de venir accompagner de son staff pour être le plus performant possible. Donc,
de toute façon, il vient pas sans son staff. Hein.
Voilà. Donc, quand tu as ce type d'entraîneur, quand tu veux faire ce type d'entraîneur, ça passe par là et je vois pas pourquoi on s'en offusquerait.
Walid.
J'ai dit quoi?
Parce que ça c'est le langage du football. On dit faire un joueur, mais en fait c'est pas français. Tu dis fais venir un joueur.
D'accord. Non, bien sûr, mais reprends-moi, faire venir un joueur.
Ou un entraîneur.
Sur le tout ce qu'on vient de dire sur
Zerbi, mais tu fais pas.
La première réaction, c'est d'ailleurs une réaction de surprise. C'est-à-dire que tu te dis, c'est dingue, Marseille arrive à faire venir Roberto De Zerbi. Tu dis, ok, très bien, on est ravis, parce que nous, on a envie de voir Roberto De Zerbi, on nous en parle depuis longtemps, plutôt bien, il vient avec son staff, j'entends tout ça. Moi, ce qui me fait peur dans le contexte marseillais et dans le contexte longoriesque, je dirais, depuis qu'il est arrivé et qu'il est président de l'OM, c'est que quand bien même il dit le contraire, notamment dans la fameuse interview qu'il avait donnée à la revue de l'After, c'est-à-dire qu'il veut construire quelque chose de durable, d'un peu plus moyen terme, on va dire, je ne veux même pas aller sur le long terme, il prend des entraîneurs qui ont un passé avec des expériences plutôt courtes et de toute façon des entraîneurs explosifs au sens premier du terme. Et c'est encore le cas avec De Zerbi. C'est-à-dire les exigences de De Zerbi, que ce soit là de venir avec son staff, que ce soit ensuite avec les joueurs qu'il va vouloir faire venir, mais également, comme l'a dit Johan dans la description de sa communication, jusqu'à sa communication, j'ai l'impression que déjà on connaît la fin de l'histoire. La question, c'est la date.
Quoi, la fin de l'histoire?
La fin de l'histoire, c'est qu'en gros, ça va être encore un truc très bref pour l'Olympique de Marseille. T'es pas sûr, tu vois un projet sur 5 ans avec Roberto De Zerbi?
Non, ça veut dire, Flo, qu'il faut jamais prendre de risque. Parce que
de vie de 5 ans avec un entraîneur personnel.
Attendez, j'ai commencé par dire, parce que j'entends, tout le monde est ravi, moi le premier. J'ai commencé par dire, je suis ravi. Je dis juste que faut que Longoria arrête de nous dire que on est sur la construction de quelque chose de plus long à Marseille. C'est pas vrai quand on dit que je... Non, je pense que Longoria est un homme de coups, contrairement à ce qu'il dit. Il fait des bons coups, il fait des mauvais aussi en termes de joueurs et de recrutement, il en a fait quelques mauvais. Mais moi, je suis plutôt pour ça. Je dis juste, faut arrêter de faire croire aux gens qu'il y a un projet derrière et qu'il y a du long terme et qu'à l'OM, ça changera.
Avec ça, Flo.
Eh ben, on verra.
Oui, on verra.
Moi, je pense que quand tu donnes les pleins pouvoirs comme ça et que tu permets à un entraîneur de venir avec son staff, surtout dans une saison où charnière, vraiment, il n'y a pas de Ligue des Champions, on est dans une saison blanche pour l'OM, donc il faut que ce soit plus une année de création, voilà, pour justement bâtir ce projet. Et je pense que c'est ce qui a plu à De Zerbi. Moi, la seule chose qui me dérange par rapport, juste un petit aparté sur le staff, c'est son conseiller qui vient là, ou son
Giovanni Rossi,
voilà, qui vient de Sassuolo. C'est il y a peut-être que lui qui me dérangerait à la limite. Parce que on veut savoir un peu le rôle qu'il va avoir, même s'il est un peu obscur dans tout ça, par rapport déjà à la direction qui est en place, par rapport à Mehdi Benassia aussi qui est arrivé dans la saison, c'est de savoir si ça va pas mettre un petit peu d'eau dans le gaz, et que au final on se retrouve à avoir des problèmes là-haut.
Mais c'est vrai que c'est rare, Damien, un rôle de conseiller de l'entraîneur. C'est vrai qu'on le voit assez peu dans les clubs, mais c'était
me dérange un petit peu.
Oui, mais c'était l'une des conditions dès le départ des conversations et quelque part Pablo Longoria et Mehdi Benassia, ils voulaient tellement Roberto De Zerbi que ils étaient prêts à faire quelques sacrifices ou en tout cas à accepter quelques demandes de la part de l'entraîneur italien.
On est d'accord qu'il les accepte, mais
juste un mot, Flo, par rapport à ce que tu disais, parce que c'est l'éternel débat qu'on a eu la saison passée où on pointait du doigt le manque de stabilité à l'OM, mais les mêmes personnes ou presque que tout le monde en fait était d'accord pour dire que de toute façon tu pouvais pas continuer à être le même effectif. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, c'est que l'effectif de l'OM cette saison a prouvé ses limites à l'exception de 2 3 4 joueurs, allez 5 maximum. Donc moi je trouve ça quelque part courageux d'assumer le fait que la saison passée était un échec, qu'il faut faire ce reset aussi concernant l'effectif. Donc effectivement faire énormément de mouvements, tu peux pas faire autrement. Et deux, après tu dis oui, mais l'entraîneur De Zerbi, etc. Donc ça veut dire quoi? Tu prends un coach lisse qui va pas faire de vagues, qui a pas un profil ou un caractère bien affirmé. Là, moi, je trouve que quelque part dans les choix qui sont ceux des dernières années, il y a quand même depuis 3-4 ans, depuis Sampaoli, Tudor, il y a quand même une marque de fabrique, c'est qu'on prend des coachs qui ont du caractère, qui ont leur vision du football. Alors effectivement, ça peut clasher si dans 6 mois, 1 an, il y a des désaccords. encore sur les recrues, sur le style de jeu, sur la pression, mais on peut pas tout avoir. À Marseille, tu sais, toi qui as employé le terme aussi du contexte, il faut avoir des entraîneurs qui impriment une certaine touche, qui a un certain vécu et donc qui viennent à Marseille avec leurs idées. Non, moi, et on peut pas tout avoir.
Je critique juste là, c'est vraiment un point qui est peut-être pas très important. Hein. C'est par rapport à ce que disait Longoria quand on lui avait posé cette question fondamentale en disant, en gros, vous êtes un homme de coup, et lui avait défendu tout l'inverse très longuement en disant pas du tout, en fait je veux reconstruire quelque chose qui dure à Marseille, toute une histoire, le club, même la formation. Ok, moi je pense que ça il faut le laisser un peu de côté, et qu'à l'inverse tu as raison, prenons le plaisir que tu peux avoir quand tu as eu Sampaoli, prenons ce stade plein à tous les matchs, prenons cette nouvelle aventure avec un projet de jeu. Moi je suis d'accord, je pointais juste le fait que je préfère finalement qu'un Longoria, même s'il le dit pas, soit un homme de coup qui nous amène des coachs qu'on n'aurait pas vu à l'OM sans ça, même y compris Tudor.
Sauf qu'il a un passif derrière désormais, sauf qu'il a un passif derrière avec l'année qui vient de s'écouler, excuse-moi, et Pablo Longoria se sait très attendu, et il peut pas non plus faire n'importe quoi, parce que si ça commence tous les 6 mois ou même l'été prochain à faire encore des mouvements qui sont pas justifiés, je veux dire, Pablo Longoria, il sera vraiment la cible des supporters, des médias, de tout le monde. Donc je crois qu'il le pense sincèrement. Moi je peux avoir des discussions assez fréquentes avec lui où je le sens sincère quand il dit il le dit pas comme ça, mais je pense qu'il a quelque part appris de certaines erreurs et que son souhait de stabilité, il est réel à partir de maintenant. En tout cas, un petit peu plus.
Tu auras la parole dans quelques secondes, Walid, promis. Johan, merci beaucoup.
Je peux donner juste deux derniers éléments.
Vas-y pour conclure. Oui, vas-y, laquelle ?
La première chose sur la question de la stabilité, c'est quand même rappeler que tu as 9 personnes sous contrat pendant 3 ans. Et que tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi et à faire un turnover trop rapide avec
les gens-là, parce que ça
sera pas le même coup. Et la deuxième chose, vous en faites ce que vous voulez, mais Giovanni Rossi, c'est surtout un très grand proche de Pablo Longoria, plus que de Derby.
Merci Johan pour toutes ces infos coulisses. Dans quelques instants, on parle du mercato, qu'on conclura sur Dezerbi avec Walid. Et puis Sofiane au 32-16 veut intervenir, il sera avec nous dans l'after. A tout de suite.
Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 32-16, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC, l'afterfoot, intégral euro,
Gilbert Bribois.
Il est 23h26, ils sont la motivation Chour, Florent Gautreau, Damien Perkis et Florent Germain. Alors, on va parler mercato. Avant cela, Walid, tu voulais finir sur Dezerbi, et Sofiane nous attend.
Flo Germain a un peu tout résumé. Non, j'étais un peu en désaccord avec ce que Flo Gautreau disait sur le fait que, en gros, cette communication de Longoria, fallait arrêter. Et c'est quoi la phrase que tu disais quand il faudra nous donner la date de fin? En gros, elle va arriver assez rapidement.
Moi, elle arrivera sans doute pas cette saison parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, qu'il n'y aura pas de danger.
Mais là, on peut estimer que sur les deux saisons
Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un coach, c'est combien de temps? 2 ans, ce sera très très bien.
Sauf en équipe de France.
Oui.
Là, c'est 25 ans.
L'équipe de France. De coach de club.
Ouais, si tu fais le moyenne, c'est moins d'un an.
De coach de club. Donc, si le mec les ramène en Ligue des Champions et que derrière, il joue la Ligue des Champions et qu'ils partent, moi, j'ai plus le sentiment, Flo, mais je pourrais me tromper, que s'il y a un départ cette saison, ce sera parce que Dezerbi partira dans un autre grand club, un peu comme Conte Sao a fait à Nantes notamment, parce que peut-être que l'OM sera beaucoup trop petit pour Dezerbi, plutôt que l'inverse, parce que les supporters sont très très étonnés et surpris de son arrivée et ils reproduiront pas, j'espère, les mêmes erreurs qu'avec Tudor ou même qu'avec Marcelino, et la même chose pour le board, c'est-à-dire que Mehdi Benatia et surtout Pablo Longoria, j'espère qu'il ne fera pas les mêmes erreurs et que la fameuse lessiveuse de coach qui a été conduite par lui ou peut-être pas, mais en tout cas factuellement il y a trop eu des coachs qui sont partis très très rapidement. S'il le fait avec Dezerbi alors qu'il a signé 9 contrats, alors là vraiment ça dépassera l'entendement, et ça me surprendrait quand même.
Tant mieux, et j'espère même que c'est pas juste à cause des 9 contrats la somme,
même de lui donner autant de crédit et de...
Après la question peut-être, Flo, enfin il nous a expliqué, puis de toute façon on verra comment ça fonctionne. Il y a aussi la façon dont tu donnes, jusqu'à quand tu lâches ou pas le pouvoir que tu donnes dans le club.
Oui.
C'est ça. Et là, que tu cèdes à ses désiderata au début pour des trucs contractuels sur les adjoints, sur, ok. Puis après, bah, il y aura quand même des discussions aussi sur les joueurs. Tu vois, est-ce que c'est, je le connais pas assez, hein, on en reparlera longuement de ce coach avec Johan, et est-ce que c'est quelqu'un de capricieux, par exemple? Tu vois, est-ce que si vraiment il a pas le joueur qu'il veut, et que, tu vois, est-ce que derrière ça peut poser un problème? C'est des choses comme ça au quotidien.
Moi, je pense.
Après,
que...
pour le reste, sur le jeu et sur le fait que De Zerbi arrive, là, si on est cette phrase-là, tu m'aurais dit il y a trois mois, c'est De Zerbi qui va être le prochain coach de l'OM après Jean-Louis Gasset. Ah, je te dis,
oui,
mais génial,
oui,
magnifique.
Non, ça, je sais, faut que tu l'as dit.
Avançons, les gars. Sofiane est là au 32-16. Salut, Sofiane.
Bonsoir, ça va, les gars?
Sofiane, ça va?
Salut, Sofiane.
Ouais, est-ce que tu es surpris par tout ce qui se passe au club, là? Parce que c'est grand chamboulement de partout, là.
Non, je ne suis pas surpris parce que c'est tous les mercatos à l'OM depuis la nuit des temps, ça a agité. C'est pas, ça, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de, comme on dit, de, quand on veut faire le ménage, il faut bien le faire. Les arrivées, c'est bien. Les départs aussi, c'est bien, mais il y a un départ qui, pour moi, et je sais que ça va tendre certains, l'esprit du club, de l'OM, peut être représenté par des joueurs de caractère, comme vous avez dit, des entraîneurs, tout ça et tout. Moi, je suis désolé, hein, Rongier, il doit partir. Je suis désolé. Si tu veux faire,
quoi,
si tu veux bien faire le ménage, Rongier, il doit partir.
Ah, Rongier!
Ouais,
d'accord,
Rongier.
J'ai compris, Roger, je me dis, c'est qui ce Roger?
Non, non, non. C'est Nantes, mais en tout cas, moi je vous dis, Rongier, Valentin Rongier, n'est pas un joueur du calibre de l'Olympique de Marseille. C'est sans moi qui reste aux autres.
C'est pas le premier que j'aurais cité dans la liste.
Moi non plus, et pourtant j'ai souvent été dur avec Rongier.
Moi j'aurais plutôt mis dans ceux qu'il faut qu'il reste.
Je vais vous dire, moi je vais vous donner mes arguments, les gars. Rongier, c'est 5 saisons à l'OM. Je compte pas celle-là. Allez, il est blessé. Moi, je les regarde, les matchs, comme vous.
Oui, on les regarde aussi, oui.
Il doit y avoir trois matchs références, même pas à son poste. Un, il doit être arrière-droit, un, il doit être défenseur central, un autre, il est 6, effectivement, sur 4 ans. Les stats, j'en parle pas. Parce qu'après, on va me dire, oui, mais c'est un milieu défensif, c'est un milieu récupérateur. Ouais, mais quand même, entrée de surface, il a 40 frappes par match, c'est lui qui est le mieux placé. Il a des frappes de 8-17 R2 au fin fond de la
scène. Oui, mais Sofiane, excuse-moi, si je peux te couper. Moi, je ne suis pas un grand fan de Valentin Rongier. Et c'est vrai qu'il y a des matchs, notamment européens, où parfois j'étais un peu déçu. mais la saison, elle ne plaide pas pour ce que tu es en train d'expliquer.
Ah, puis surtout, il va rester.
Après, il faudra voir, parce que physiquement, ça fait quand même longtemps qu'il était prévu sur le retour. Et j'ai l'impression que ça tarde un peu plus. J'aimerais avoir les renseignements de Flo Germain là-dessus. Mais moi, par exemple, quand Kondogbia est arrivé cette saison, j'ai dit ok, Rongier il va aller sur le banc et ça va être Kondogbia Veretout. Force est de constater que j'étais très très déçu de Kondogbia et qu'il a pas fait aussi bien que ce que pouvait faire Rongier dans ses années sous Villas-Boas, dans ses bonnes années sous Villas-Boas, ou même avec Sampaoli, ou même avec Tudor l'année d'avant. Donc moi je vais pas être dans un bashing sur Valentin Rongier, mais pourtant je le répète, oui je pense qu'il y a un plafond de verre chez Valentin Rongier, mais pour la Ligue 1 sur une saison sans Ligue des Champions, je vois pas pourquoi tu appellerais ce soir en disant le mec qu'il faut sortir, c'est Valentin Rongier. Je te trouve quand même un peu dur là-dessus.
Après, j'aimerais que Sofiane juste réponde à cette question. C'est tu veux qu'il soit plus le capitaine de l'OM et donc plus le leader quelque part de cette équipe, ou tu veux carrément qu'il soit effacé des tablettes olympiennes? Parce que ce sont deux choses différentes. Il y avait eu une réunion avec les groupes de supporters où beaucoup avaient trouvé que certains supporters avaient été durs avec lui en disant que il devait pas être capitaine parce que il représentait pas quelque part l'esprit marseillais ou la grinta olympienne. Je trouve personnellement que c'est un petit peu sévère, mais est-ce que ton propos c'est de dire il doit pas être capitaine de l'OM, ou il doit pas tout simplement être à Marseille? Parce que là, si c'est la deuxième hypothèse, je te trouve quand même assez dur par rapport à l'engagement qu'il a. Après, parenthèse, c'est vrai que sa blessure au genou est plus compliquée de prévu, mais bon, il a envoyé quelques signaux positifs et il faut espérer qu'il puisse reprendre voilà, physiquement.
Parce qu'à la base, c'était 4 mois, Flo, non, c'était pas 4 mois.
Ah oui, non, mais il devait revenir au départ en février.
Elle est longue, la question, Flo Germain.
Ça s'est prolongé. Ben non, mais comme ça, ta réponse va être courte, c'est pour ça. C'est qu'en fait, ça s'est prolongé éternellement, et effectivement, il a pas. Je pense que c'est le plus malheureux de tous. Mais après, voilà, je sais pas, c'est quoi qui te gêne? C'est son profil en tant que capitaine, ou tout simplement, il a pas sa place à Marseille, selon toi?
Alors, déjà, dans aucun monde, il n'aurait espéré devenir capitaine de l'OM. Déjà ça, c'est clair. Ça, même lui, au fond de lui-même, dans aucun monde, il se dit je vais être capitaine de l'OM un jour.
Il t'a pas piqué ta copine Valentin Rongier là, parce
non, ça va, j'ai l'impression qu'il y a
un souci perso là.
Il m'a joué de vivre sur au moins 80 matchs depuis qu'il a l'OM, c'est encore pire. Mais moi je suis désolé, le joueur n'est pas calibré pour l'OM. Moi, j'ai les faits devant moi. Je parle même pas de Ligue des Champions. C'est beaucoup trop pour
lui. Il y a une liste quand même de mecs.
Mais quelle OM tu parles? Parce que tu l'as vu la saison de l'OM.
Bien sûr, c'est une liste de mecs. C'est logique. Ça, c'est les logiques. Les mecs qui doivent partir, Kondogbia, Correa, oui, tu le renouvelles. C'est logique. Mais il y a un gars, ça fait 5 ans, il a l'OM, capitaine de l'OM. Et soi-disant, pour certains, oui, c'est le meilleur joueur. Le mec, il n'a pas une rumeur de transfert. Il n'en a pas une. Pas une. Vous allez au fin fond de la Ligue 2, des mecs, ils ont des rumeurs de transfert chaque mercato. Lui, il n'a pas. Je ne dis pas qu'il est en instance. Non, il n'a pas une rumeur. Il n'y a même pas un faux mail de Trabzonspor. Oui, on est intéressé par Rongier, par le CRB Belouizdad à Alger.
Il est blessé. Il est blessé, Sofiane.
J'ai dit, je tiens pas compte de cette année. Les autres années, ouais. Ça fait 5 ans, il est là. Il y a eu 4 années pleines, soi-disant, c'était ses meilleures années.
Toi, tu veux garder Mumbagna et virer Rongier.
Je pense que tu avais à dire, ce que tu avais sur Rongier, là, voilà, qu'on aurait pu renvoyer à Belouizdad, qui veut jouer la finale de la Coupe d'Algérie, d'ailleurs. Sachez-le, vendredi. Ce qu'on suit le foot algérien avec Walid. Depuis qu'on est en Algérie, on est au top.
La Coupe d'Algérie, c'est au mois de juillet ?
Oui. Ouais. La Coupe d'Algérie, ils font la finale de la Coupe d'Algérie le 5 juillet.
5 juillet.
Au stade du 5 juillet.
Ouais.
Ah ouais.
C'est bien fait.
Le MC Alger de Patrice Baumel contre le CRB Louisa. Le premier contre le deuxième.
D'accord.
Exactement. On salue Patrice Baumel. Rongier va rester de toute façon. Je ne vais pas casser le moral de Sofiane, mais Florent, tu confirmes ? Ouais.
Oui,
il va falloir accompagner Sofiane quand même.
J'ai pas d'info.
Parce que j'ai l'impression quand même qu'il peut faire des petites conneries. Hein.
Oui, on va surveiller ça. Mais après, je sais pas. Moi, j'espère surtout qu'il va retrouver petit à petit 100% de ses capacités. Et je pense que dans l'effectif, ça peut être un joueur intéressant. Après, je pense que c'est pour ça que j'ai posé la question du brassard. Je pense que c'est ce qui a un peu cristallisé les tensions ou l'agacement. Donc, on verra. Tiens, parenthèse, si jamais Rongier peut pas reprendre tout de suite, il y a un Argentin en défense qui, je pense, serait ravi d'avoir le brassard. Il s'appelle Léo Balerdi parce que avec tout le mouvement qu'il y a, ça va devenir l'un des anciens et Sofiane, notre auditeur, parlait de Grinta et quelque part d'ancienneté maintenant parce que ça fait quelques saisons qu'il est là, donc faudra voir. Mais puisque tu me lances là-dessus, donc Balerdi fera partie des joueurs qui devraient rester, sauf offre d'un top prolonger club même. Qui le ferait réfléchir lui. Et il devrait prolonger de 2 ans normalement.
Ça c'est une bonne nouvelle.
Minute de pause là. Ensuite, tu vas nous parler de Aubameyang. Que se passe-t-il?
Je te fais la liste.
Brassier, oui. Ndiaye, enfin pas mal de joueurs là. Il y a pas mal de points à faire.
Koné aussi qui est arrivé, qui est officialisé hier.
Voilà. Et puis ensuite, tu auras la Copa América. Donc on revient dans une minute avec le mercato marseillais.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, l'After Foot, Intégral Euro,
Gilbert Bribois.
23h37, Walid Acher sur Florent Gautreau, Damien Perkis et Florent Germain, le mercato de l'OM. Alors, allons-y dossier par dossier. Donc, Brassier, Ndiaye, tu nous fais savoir aujourd'hui, les dossiers sont bouclés.
Ils sont même officialisés. Donc effectivement, hier on disait que c'était bouclé, et c'est officiel depuis aujourd'hui. Donc Ismaël Koné, le jeune international canadien de 22 ans là, qui est en ce moment avec sa sélection. Donc c'est un transfert de 12 millions d'euros, contrat de 5 ans. C'est un joueur qui joue à Watford, qu'on n'a pas vu non plus, sur une trentaine de matchs. Faut être honnête, mais sur le profil, c'était un joueur que souhaitaient absolument les dirigeants et Roberto De Zerbi était très emballé également. Lilian Brassier, c'est officiel aussi depuis une grosse heure, le défenseur de Brest qui est prêté. C'est la petite parade, la petite astuce de dernière minute. Il a prolongé avec Brest avant d'être prêté avec une option d'achat quasi obligatoire estimée à 11 millions d'euros. Donc Brassier est olympien. Après les dossiers, l'un des dossiers chauds, ce sera celui celui du gardien de but. Moi, j'ai de plus en plus d'éléments qui me confirment que Paulo Lopez va partir.
Ouais.
Il a des négos en cours avec le club italien de Côme. Voilà, il y a pas mal de noms qui circulent. En interne, on me dit qu'aucun d'entre eux n'est véritablement avancé. Meslier de Leeds, Jorgensen de Villarreal, même Brice Samba. Avec Brice Samba, il y a eu par exemple une prise de renseignement, mais je crois que Lens demande beaucoup d'argent, donc ça risque d'être un dossier compliqué.
Franchement, ce serait excellent pour l'OM si Brice Samba revenait, mais bon.
Ah ça oui.
Oui oui. Bah en tout cas c'est je pense qu'il a il aime ce club. Ça serait pour lui une belle revanche sur...
aujourd'hui là ah, ouais,
le message est clair.
On a compris presse, oui oui mais bon. Compris, hein. Mais malgré tout, il a un contrat, il a un rôle important à Lens, donc Lens va pas le brader. Enfin, on m'a fait comprendre que c'était compliqué de le dénicher et de se mettre d'accord avec Lens. Donc ce sera à suivre malgré tout. Après, au milieu de terrain, Jordan Veretout, on est sur un dossier qui est un peu tendu parce que l'OM avait un accord et a un accord avec Al-Douaïl, le club qatari. Mais Veretout semble hésiter ou peut-être demande un peu plus. Je sais pas ce qui se passe très précisément, mais en tout cas Veretout et l'OM c'est un peu tendu parce que Marseille pensait que il allait partir et ça semble se compliquer. Et d'ailleurs à ce poste là au milieu de terrain, il y a un joueur qu'il faudra suivre parce que on nous a confirmé que c'est vraiment l'une des priorités de l'OM, même si c'est un profil assez jeune, il est avec la sélection argentine en ce moment, c'est Valentin Carboni qui a fait une bonne saison avec Monza.
Ah oui, j'ai vu
il a passer, à peine 20 ans. Au milieu de terrain et effectivement voilà, l'OM négocie et
profil
et
numéro 10
convaincre.
En fait, profil numéro 10 aujourd'hui
voilà, peut-être un peu voilà, exactement, peut-être un peu plus bas parfois dans le profil que souhaite Roberto De Zerbi, mais une qualité technique, de vision du jeu qui sont intéressantes. Donc écoute, c'est un joueur que souhaite vraiment l'OM, Valentin Carboni. Et puis après il y a des dossiers concernant les départs qui sont nombreux. Klos et Gigot par exemple, l'OM souhaite les voir partir, mais Gigot il était pas trop chaud pour aller en Turquie. Klos, il faut attendre que l'Euro peut-être se termine pour qu'il y voit plus clair. Devant, bon, Ndiaye c'est officiel par Everton. Je pense que Sarr devrait partir également, même si ce n'est pas fait. Et puis Gilbert, je sais que tu évoquais le dossier délicat Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui.
On a tous un vrai point d'interrogation là-dessus. J'ai pas de révélation ce soir à faire, si ce n'est que il sera à la reprise de l'entraînement normalement, que il y a une hésitation de son côté à savoir si il cède ou pas aux sirènes de l'Arabie Saoudite, parce que on serait revenu à la charge avec un pont d'or proposé pour Aubameyang. Donc l'OM aimerait être fixé. Il y a eu une réunion dès que Roberto De Zerbi est arrivé, et je dirais même avant qu'il signe, où lui De Zerbi a fait savoir aux dirigeants qu'il comptait sur lui et qu'il voulait qu'il reste, qu'il n'y avait pas de débat et que l'OM compte sur Aubameyang. Peut-être qu'il faudra une nouvelle discussion, peut-être des garanties aussi sportives. J'imagine qu'Aubameyang a envie de savoir l'équipe qui va se construire autour de lui et voilà, avoir des assurances sur le niveau qu'aura l'Olympique de Marseille. Je pense que tout ça peut compter. Donc on peut pas se prononcer encore avec certitude sur l'avenir d'Aubameyang à Marseille ou ailleurs.
Et la tendance pour toi, ce serait plus vers un départ ou non, t'as pas de tendance? Tu le sens comment?
J'ai pas de tendance, mais honnêtement,
je le sens pas ouf.
Bah voilà, quand il y a des hésitations comme ça, pour moi, c'est que ça sent pas bon.
Surtout que le pressing d'Al Shabab, c'est pas la première année hein, en Arabie Saoudite qu'ils le veulent. Et puis moi, j'ai l'impression que ça arrangerait un peu tout le monde, parce qu'il prend 7 millions à l'année, il a 35 ans.
Tu sais pas si, en plus, c'est la saison qui est bonne.
Ouais.
Tu sais pas s'il va être capable de la rééditer, parce qu'il lui-même se pose cette question-là légitimement. Je trouve que pour le coup, la question, elle est légitime, même pour lui, y compris financièrement.
Je pense qu'elle l'est, mais il faut avoir derrière, malgré tout, Aubameyang, on peut l'écrire ou le dire de la manière que vous voulez, mais pour moi, c'était un grand attaquant à Marseille l'année dernière, dans un contexte compliqué.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Va falloir trouver un joueur de ce calibre-là qui va te mettre sa trentaine de buts.
Parce que c'est un mec qui va mettre entre 15 et 20 buts. En plus, là, cette année, il n'aura pas la Ligue Europa qui lui a pompé l'énergie l'année dernière. Donc, il y a des plus et des moins. Moi en fin de saison, je me disais qu'il fallait quand même le garder, je dirais pas à tout prix, mais en tout cas, si c'était possible. Mais plus ça avance, et puis surtout, si tu me dis qu'il y a une réflexion de sa part sur le fait de continuer à évoluer dans un contexte à pression du côté de l'Olympique de Marseille, si tu peux aller recruter un autre numéro 9 un peu plus jeune, parce que c'est ce que tu expliques tout à l'heure avec tes infos, j'ai le sentiment quand même qu'il y a un rajeunissement de l'effectif de la part de l'Olympique de Marseille. Brassier, 23 ans. Ilan Meslier, s'il vient, c'est 24 ans.
C'est le cas, c'est le cas.
On parle du petit jeune italien là, c'est 21 ans. Donc moi j'ai l'impression que la nouvelle strate, c'est que on va mettre des jeunes joueurs dans les mains de Zerbi, qui va créer de la valeur et qui va permettre sur un cycle de 2 ans de derrière encore émerger pas mal d'opportunités de transfert. Donc si c'est vraiment le cas, même s'il faut pas, il faudra un ou deux joueurs d'expérience, la question d'Aubameyang se pose de plus en plus. Hein.
Bon, tiens, j'ai une petite histoire pour conclure, une histoire marseillaise. Flo est au courant, mais en fait, Mbappé, c'est vrai que Mbappé, son idole, c'est Cristiano Ronaldo.
Oui.
Et donc, il joue contre Cristiano Ronaldo vendredi.
Vendredi.
Et en fait, il a invité Florent Jean-Charles Debono, qui est un ancien pote d'Éric Dimeco, un ancien Nino de l'OM.
Ah oui, qui a fait monter l'OM.
En fait, l'histoire, c'est que Mbappé petit était un jour allé à Marseille voir jouer Ronaldo. Et en fait, c'est Debono qui avait
sur un OM Real
qui avait aidé le petit Mbappé à rentrer, à s'incruster pour voir Cristiano. Mbappé était personne. Ah, c'était un gamin.
Donc sur les photos qu'on voit entre Ronaldo et Mbappé, c'était dans un match OM Real Madrid.
Et donc en fait, Mbappé a voulu, comme il joue contre Cristiano, dire bah tiens, moi j'aimerais l'inviter vu qu'il est grâce à lui, j'avais vu.
Voilà. Il a
en fait sur le site Football Club de Marseille où collabore Jean-Charles Debono, il explique qu'il a reçu un WhatsApp a priori de la maman de Kylian Mbappé. On parle de ça il y a quelques jours là, juste après la qualif pour les quarts. Et au départ, lui il croyait que c'était une blague. Et en fait, non, c'était la réalité. Kylian Mbappé s'était souvenu de ça. Il a dit moi je veux que pour la belle histoire, il y ait ce monsieur un peu dégarni là qui soit au match. Donc Jean-Charles Debono, qu'on salue, va prendre l'avion pour le Portugal.
Merci Flo pour
l'Allemagne.
Merci Flo.
Merci les amis, à bientôt. Ciao.
Dans un instant, la Copa América, le reste de l'actu du jour, c'est dans l'after dans quelques instants.
RMC, l'after foot, intégral euro.
Gilbert Dribois.
23h47, Walid Achirchour est là, Florent Gautreau, Damien Perkis et Hamza Ramani nous rejoint. Hamza, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Hamza, je suis la Copa América toutes les nuits. Qui regarde les matchs là parmi vous?
Moi j'essaye, mais c'est dur.
Ah, c'est dur.
À 3h du matin.
Le match de 3h, il est
vraiment... Je finis souvent à 1h, 1h30. J'ai du mal à aller jusqu'à 3h. Donc j'ai dû me faire 2-3 mi-temps par-ci par-là. Mais non, j'ai pas suivi.
Damien non plus?
Non, j'avais regardé un petit peu le Canada moi. Parce que j'ai Jonathan Osorio qui joue et.
Que t'as connu à Toronto?
J'ai connu à Toronto, hein, donc j'ai une petite attache canadienne.
Très bien.
T'es content de la qualif, alors?
Ouais, je suis très content.
Je regarde les résumés sur l'équipe.
Voilà. Oui,
3-4 minutes, ouais. Voilà. Les buts, t'as les occasions.
Exactement. Donc, raconte un peu, parce qu'il s'est passé plein de trucs. La nuit dernière, le Brésil n'a pas gagné. Vinicius a réussi à se faire suspendre pour le match d'après. Et pendant ce temps-là, l'Uruguay a brillé, l'Uruguay de Bielsa. Le Venezuela, équipe a priori la plus bidon d'Amérique du Sud, tout à coup, maintenant ils se mettent à gagner tous les matchs. Il se passe pas mal de choses quand même.
Surtout les pays hôtes, deux des trois prochains pays hôtes qui sont sautés au premier tour, en l'occurrence le Mexique et les États-Unis. Pour des raisons différentes, les États-Unis, ils ont quand même une belle génération et c'est un accident. En fait, tout s'est joué sur le deuxième match face au Panama quand Timothy Weah a décidé de mettre une patate à un mec au bout de 20 minutes alors que le ballon était à l'autre bout du terrain. Le Mexique, c'est beaucoup plus inquiétant. Ça fait des années qu'on les voit chuter en termes de performance. C'est le bordel à la Fédé. Il y a des changements de règlement dans le championnat, des changements de sélectionneurs. On change les joueurs à la dernière minute. Ochoa, qui était numéro 1, il n'est pas convoqué pour la Copa. Rien me dit qu'il sera pas le numéro 1 dans quelques semaines. Donc Mexique, c'est pas une surprise. États-Unis quand même un peu, éliminé par le Panama, donc autre pays de la zone CONCACAF. Le Canada
avec qui, Murillo, le Marseillais
notamment. Le Canada qui se retrouve aussi en quart de finale, qui a eu son match à gagner là aussi avec des circonstances. Il y a eu un carton rouge en début de seconde période, je crois. Mais
progrès le Canada quand même. Coupe du monde, c'était quand même.
Ouais, c'était bien, c'était
éliminé.
Ouais, mais c'était bien, c'était bien.
C'est pas mal.
Ouais, ouais, ils ont des bons joueurs. Hein, ouais. Toutes les lignes, c'est pas mal. Même on pense Eustáquio de Porto qui était à Porto, qui est très bon.
Buchanan.
Et puis devant, t'as Larine.
C'est vraiment bien, Buchanan.
Il a une grosse blessure. Ouais. Et puis devant, Larine et Jonathan David, moi j'aime bien, c'est jeune, le coach est bien aussi, donc
Alfonso Davies.
C'est un peu, avec le
on va dire le foot de l'Amérique du Nord qui est en totale progression.
Progression, avec plus de place pour la Coupe du Monde.
Les États-Unis.
Hein. Donc, on va aller voir.
Ils y sont, quoi qu'il arrive, ils y sont en tant que pays.
C'est marrant parce que le Canada, finalement, c'est assez multiculturel comme équipe. T'as les mecs d'origine sud-américaine, il y a tout.
Ah, Davis, son histoire est particulière. Ouais. Lui, ses parents viennent du Liberia et puis ils ont changé de coach. Ils ont nommé Jesse Marsh juste avant la Copa América. Donc c'était vraiment l'incertitude. Il y a des joueurs comme ça qu'on découvre. Bombito, le défenseur central, je le connaissais pas du tout avant la compète. Ça fait un an à peine qu'il est professionnel. Il se retrouve titulaire aujourd'hui en sélection et il est franchement. Tu peux te dire que si tu parviens à lui trouver un bon cadre avec un bon entraîneur, c'est un défenseur central qui peut progresser à une vitesse folle parce qu'il a des lacunes mais qui semblent rédhibitoire au haut niveau, mais qui peuvent sembler folles.
Un joueur explosif. Hein,
mais en fait, si tu lui trouves le bon cadre, je suis persuadé que ça peut.
il va progresser, c'est une certitude.
Et ça. Joe David fait une bonne phase de poule.
Bah, les occasions, faut les mettre. Et lui, il en a mis une en l'occurrence, qui était très importante. Le Canada a eu pas mal d'occasions face à l'Argentine. Je pense que défensivement, c'est l'équipe. L'Argentine a été le plus en difficulté face au Canada sur la phase de poule.
C'est mérité leur qualification. Parce que
elle n'est pas imméritée. Après, honnêtement, c'est un peu par défaut, tu vois. Parce que le
Chili, c'est une surprise de les voir pas sortir.
Le Pérou, c'est pas une surprise. Aujourd'hui, c'est une équipe de, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est une équipe de vieillards. Ouais. Enfin, tu te retrouves avec, c'est la génération qu'on a depuis 10-15 ans. Guerrero, il a 40 ans, il est encore en sélection. Guerrero, c'est le gardien, il est encore là. T'as Cristian Cueva qui est sans club, qui a été rappelé. Zambrano en défense. Enfin, c'est des mecs qui aujourd'hui ont 35-36 ans. C'était probablement leur dernière Copa, mais il y a un tel trou générationnel qu'aujourd'hui ils sont toujours en sélection. Et puis le Chili, pareil, ils ont changé de sélectionneur assez récemment avec Gareca qui est l'homme justement qui a porté le Pérou sur ses 7 dernières années en Copa. Et lui, il a rappelé tous les tauliers, tous les anciens, Bravo, Alexis Sanchez, Isla, ils sont tous là.
Ouais.
Et ça aurait pu passer pour le Chili, honnêtement. C'est pas passé, ils ont fait deux matchs nuls et une défaite à la dernière minute face à l'Argentine. Mais honnêtement, c'est pas une surprise de les voir dehors. Mais le Canada, ça peut être intéressant parce qu'en plus, le match face au Venezuela, franchement, sur le papier, c'est peut-être pas le plus alléchant. Mais je pense qu'on aura un match compliqué, très sympa. Ouais.
Alors, l'Argentine a assuré aussi, mais Messi est blessé.
Bon, il va revenir, il sera là normalement pour le quart de finale.
Messi, Argentine-Équateur. Hein.
Petite alerte au niveau de l'adducteur. On n'a pas pris de risque pour le troisième match. Ils étaient déjà qualifiés.
Ouais, Argentine-Équateur, normalement, l'Argentine, ça va passer là.
Bah, ce qui est fou, pour être honnête, on en parlait il y a quelques jours avec un ami de l'After et de RMC, Georges Quirino.
Il est dans le coup celui-là.
Mais bien sûr, on est ensemble, on commente la Copa pour l'équipe. Et en fait, ce qui est fou avec cette Argentine, c'est qu'il n'y a pas cette impression hyper spectaculaire, mais quoi qu'il arrive, ça passe. Et quoi qu'il arrive, tu gagnes. Tu vois, le match face au Chili.
Là, c'est un peu la France.
Ils ont rarement été mis en danger. Il y a eu deux grosses occasions en seconde période. Dibou, il est là, il fait les deux arrêts.
C'est chiant comme l'équipe de France ou c'est mieux quand même?
Moins. Sur le théorème France, non. Sur le théorème Angleterre, on n'est vraiment pas sur le même, même sport. Et non, mais en fait, l'Argentine, c'est ça. C'est que tu les sens. Ils sont en maîtrise, ils sont en contrôle. Parfois, ils vont concéder des occasions, des situations. Ils ont changé la charnière. Maintenant, c'est Lisandro Martinez qui a une superbe qualité de relance avec son pied gauche. Et puis ça passe. Voilà, les tauliers sont toujours là. Di Maria, c'est sa dernière compète. Lautaro, il revient en forme. Il avait plus marqué en sélection pendant 16 matchs. Et là, en 2024, c'est le buteur de la sélection.
Et Dibu Martinez est toujours...
Oui, face au Chili, on l'a pas vu du match. Il a deux arrêts importants à faire, il les fait.
Et après, il va chauffer vraiment la tribune derrière lui.
Je sais qu'en France, on a cette image. Bah, face au Chili, après le but de Lautaro, il va aussi chauffer les supporters chiliens. Je sais qu'en France, on a une image quand même de Dibou parce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé. Sincèrement, en sélection, c'est le patron défensif. Voilà, c'est lui qui maintient le.
Non, mais c'est bon de le rappeler parce qu'effectivement. Il y a eu tous ces débats en disant ouais, mais tu sais, c'est pas un très bon gardien. En Angleterre,
c'est un bon gardien.
Et Messi sur la phase de poule.
Il est insupportable, mais c'est un bon gardien.
Ouais. Bah, c'est du Messi, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il est capable de disparaître 10 minutes et de faire la différence sur une passe, sur un geste, sur une accélération. Face au Canada, il a eu quelques occasions.
Ouais, il a un peu croqué contre le Canada, ouais.
Ah ouais, à 1-0, mais.
Parle-moi de l'Uruguay, de Bielsa.
Ah, là. Bah, c'est l'équipe la plus enthousiasmante de cette Copa América pour le moment. Le premier match face au Panama, les 30 premières minutes, t'avais besoin de ventoline parce que les mecs j'avais de la peine pour les Panaméens, ils étaient acculés dans leurs 16m50. Sauf que t'as aussi un attaquant, Darwin Núñez, il se crée beaucoup d'occasions, mais il a besoin de beaucoup d'occasions aussi pour marquer. Ils ont eu peut-être franchement après 30 minutes, je crois que la stat c'était 11 tirs après 20 minutes. Et t'aurais pu être dans une situation où il y avait 4-0 après 20 minutes et c'était terminé. Sauf que les occasions ne sont pas converties, il y a 1-0. Et il y a un petit temps un peu plus faible en seconde période. En plus, il y avait un Miami, il y avait plus de 80% d'humidité, donc les joueurs commençaient à ressentir la fatigue. Araujo, le défenseur central, carrément était sorti à la mi-temps parce que déshydraté, tout simplement. Donc, mais le rugby aujourd'hui,
avec Bielsa, avec le style de Bielsa, les joueurs.
C'est ça, mais ça cavale. Honnêtement, c'est super spectaculaire. C'est
ils osent lui dire lève-toi qu'on prenne à boire dans la glacière.
Et puis toujours
la glacière. Du coup, déshydraté.
Mais non, franchement, c'est une équipe spectaculaire, une équipe toujours agréable à suivre, avec des profils toujours à la Bielsa qui va replacer Nathan Nandez, un milieu de terrain, il le met latéral droit. La charnière centrale, t'as Araujo, tu te dis Jiménez, il joue à l'Atlético, c'est le vice-capitaine parce que c'est Suarez, sauf qu'il joue jamais. Jiménez ne joue pas non plus, c'est Valverde le capitaine, du coup le troisième capitaine. Et non, Jiménez ne joue pas, il est remplaçant. Il a mis un arrière-gauche dans l'axe. Ça veut dire qu'en septembre et octobre, c'était Vigna, l'ancien joueur de la Roma, dans l'axe, et Oliveira, le joueur de Naples, à gauche. Il a inversé les deux, ça semble marcher mieux. Et aujourd'hui, la charnière, c'est un latéral gauche, plus le latéral gauche supplémentaire en tant que latéral gauche. T'as Araujo qui joue au Deportivo Toluca, qui est l'un des meilleurs joueurs de la compétition sur ce premier tour, en ailier gauche aussi, hyper décisif. Il y a une grosse frayeur d'ailleurs sur son.
Il s'est blessé à la tête.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Suspicion de commotion. L'image est quand même assez impressionnante, finalement, rien de grave. Et peut-être sera-t-il là en quart.
C'est les grands favoris de la compète ?
Avant la compète, moi je partais sur une finale Argentine-Uruguay parce que l'Argentine avait un boulevard, le tableau, on en parlera peut-être un autre jour parce que le tableau a été fait quand même pour qu'il y ait une petite finale à Miami avec le local de l'étape. Je partais sur l'Uruguay. Après, la Colombie aussi fait forte impression sur ce début de compétition. Eux, c'est les Colombiens, c'est peut-être les joueurs les plus en confiance parce qu'ils n'ont plus perdu depuis 2 ans et demi. Je crois que la série aujourd'hui elle est de 25 ou 26 matchs d'invincibilité.
J'ai vu Ramez, il est en grande forme,
franchement, alors, il régale.
Il est au fond de
la mer. Le pied gauche, il est toujours présent, il joue à Sao Paulo, ça fait 2 mois qu'il joue pas vraiment à Sao Paulo. Luis Diaz continue de porter son équipe. Il y aura l'absence de Jefferson Lerma suspendu en quart, mais bon, normalement ça devrait quand même passer face au Panama. Donc non, séduisant de Colombie. Sur le papier, la demi-finale, si elle a lieu entre l'Uruguay et la Colombie, on pourrait assister peut-être au meilleur match de cette Copa América.
L'Uruguay-Brésil déjà, ouais.
Brésil décevant globalement.
En fait, c'est une équipe en reconstruction depuis la Coupe du Monde. Tu sais, ils ont enchaîné les sélectionneurs par intérim. D'abord Ramon Menezes, il y a eu ensuite Diniz qui a été viré.
Ancelotti.
Et là, ouais, parce qu'ils attendaient Ancelotti. Là, avec Dorival Junior qui est arrivé en début d'année, ça avait été plutôt intéressant au mois de mars, les matchs amicaux en Angleterre et en Espagne. Là, face au Costa Rica, ils sont honnêtement mal payés, mais le premier match, tu fais 0-0, tu lances mal ta compétition. Derrière, tu dois courir après la Colombie, notamment. Ils écrasent le Paraguay. Derrière, il y a ce match face à la Colombie qu'ils devaient gagner pour terminer en tête. Ils terminent pas en tête, ils font un partout, parce que la Colombie, encore une fois, bonne équipe. Et sur le match, on est plus proche d'un 2-1 Colombie que d'un 2-1 Brésil. Et l'absence de Vini sur le quart de finale face à l'Uruguay, par contre, c'est un vrai coup dur, forcément.
Bon, c'est l'Uruguay-Brésil, c'est le 6 juillet, là, dans la nuit du 5 au 6.
C'est ça, juste 3h du matin.
J'ai l'équipe de France. On peut enchaîner Espagne-Allemagne.
Ouais.
France-Portugal.
Tu veux regarder assuré, là, 3h du matin, sur l'écran géant? Je sais pas s'il sera encore.
Non.
Ils auront coupé, à mon avis.
Alors, je m'attends les quarts de finale aussi.
T'as Colombie-Panama à minuit, juste avant le Uruguay-Brésil, et les deux autres sont à 3h du matin, la veille et l'avant-veille.
Ça pique.
Ouais, ça pique 3h, mais bon. Et franchement, ça
vaut.
Sur certains matchs, ça vaut le coup.
Merci Hamza.
Au plaisir.
Pour cette mise à jour. Heureusement que t'es là et que toi tu dors pas la nuit pour
travailler sur tout.
C'est ça. C'est fini pour ce soir. Demain, on sera de retour dès 20h avec Génération After. Merci à Damien. À très vite.
Merci à vous.
Walid.
Merci à toi.
Ciao.
Flo.
Assuré, non. Bonne nuit à tous. Et à demain soir dans l'After.
RMC, l'After Foot Intégral Euro.